Vous écoutez, on lit pour vous.
Nos voies ferrées sont une honte nationale, un texte de Philippe Mercure, paru le 31 juillet 2024 dans la presse. Il faut reconnaître que ça fait dur. En pleine saison touristique, il est impossible d'aller à New York en train pendant tout l'été. La raison? Avec la chaleur, les rails se dilatent et les trains doivent rouler à une vitesse extrêmement basse. Oui, oui, encore plus basse que ce à quoi ce train déjà incroyablement lent nous a habitués. Actuellement, sur la portion canadienne du trajet, la vitesse maximale est fixée à 16 km/h. C'est complètement ridicule. Même un vélo roule plus vite que ça. Pas étonnant qu'Amtrak ait décidé d'interrompre la liaison jusqu'à ce que les travaux en cours soient terminés. Vous rêvez des maritimes? Pas de chance. L'état des rails, encore lui, vient de forcer Via Rail à réajuster son horaire pour mieux refléter les temps de trajet réels. Le transporteur ajoute 45 minutes au trajet Montréal-Halifax et 90 minutes dans l'autre sens. Résultat, il faut aujourd'hui tout près de 24 heures pour gagner Halifax à partir de Montréal. C'est plusieurs heures de plus qu'il y a 40 ans. Inutile de rappeler ici, parce que ça fait trop mal, que les Européens, les Japonais, les Chinois et même bientôt les Américains voyagent dans des trains qui roulent à 300 km/h et plus. Pour Tim Heyman, président de Transport Atlantique, un groupe de défense des usagers du train de passagers dans les maritimes, la situation dans l'ensemble du pays est devenue une honte nationale. Je suis d'accord avec lui. Et il est temps de mettre le doigt sur le bobo, les rails du CN, que les trains de passagers sont forcés d'emprunter, sont d'une qualité médiocre. Oui, il existe un projet de train moderne entre Québec et Toronto, un train qui serait soit à haute fréquence, soit à haute vitesse, on espère la deuxième option. Un train qui aurait sa voie réservée et qui n'aurait plus à quémander le passage chaque fois qu'il veut circuler. Mais on ne peut continuer à tolérer l'intolérable en attendant ce train. D'abord, parce qu'on pourrait attendre longtemps. Le projet est prévu pour le milieu des années 2030. Et on sait tous que ça pourrait être plus long. Ensuite, parce qu'il n'occupera qu'un seul corridor et qu'il faut aussi s'occuper des autres. Faut-il rappeler qu'on est en pleine crise climatique et qu'on cherche des façons écologiques de se déplacer? Qu'il faut diminuer l'usage de l'auto et de l'avion? Le CN le dit de façon très franche, il maintient ses rails sur lesquels roulent les trains de Via Rail dans l'état qui permet de faire rouler ses trains de marchandises. Point. Le service nous permet de faire rouler nos trains et d'avoir le service pour nos clients. Ce sont des voies qui nous appartiennent. Il y a un niveau dont le CN s'assure pour que ses opérations puissent continuer. Tout ce qui va au-delà et que les services de passagers veulent, on entre dans des ententes avec eux, dit Jonathan Abécassis, directeur des relations avec les médias du CN. Du côté de Via Rail, on reste diplomate. Mais on sent bien que la décision d'allonger l'horaire de la liaison Montréal-Halifax fait grincer des dents. Via affirme avoir versé 18,3 millions de dollars au CN pour effectuer des réparations sur une portion du trajet située entre Miramichi et Bathurst, au Nouveau-Brunswick. Malheureusement, depuis, l'état actuel de cette même subdivision a entraîné des changements opérationnels. En réponse aux restrictions de vitesse récurrentes imposées par le CN, ainsi qu'à une détérioration des vitesses opérationnelles sur cette infrastructure en raison de l'état des voies, notamment sur la subdivision de Newcastle, Via Rail n'a pas eu d'autre choix que d'ajuster l'horaire de l'océan à partir du 19 juin 2024, dit Via dans une déclaration écrite. L'ECN réplique qu'il n'utilise même pas cette section et qu'il la maintient uniquement pour Via Rail. Pour Via Rail, la situation est d'autant plus frustrante que la société a lancé un programme de remplacement de ses trains. En principe, les nouveaux trains sont plus rapides. Dans les faits, leur vitesse est limitée par l'état des rails. L'idée n'est pas de trancher qui a raison et qui a tort entre Via Rail et l'ECN. Il s'agit de constater que la situation actuelle est intenable et de chercher des solutions. Il est irréaliste de penser construire un réseau parallèle à celui du CN. Mais Tim Heyman, de Transport Atlantique, souligne que certains segments pourraient au moins être acquis par Via Rail ou par le gouvernement. Est-il normal, par exemple, que la fameuse section Miramichi-Bathurst, qui soulève des conflits et qui ne sert qu'au transport de passagers, soit la propriété du CN? Le fédéral ne peut laisser ainsi pourrir la situation. Si les rails étaient meilleurs, le CN n'aurait pas à faire rouler ses propres trains à des vitesses de tortue. Cela dégagerait les voies et permettrait de faire passer plus de trains sur les mêmes infrastructures. Ce ne serait pas la première fois que le gouvernement se mêlerait de la gestion d'infrastructures privées dans un intérêt national. Le fédéral force les géants des télécommunications comme Bell ou Rogers à partager leur réseau avec de plus petits fournisseurs pour favoriser la concurrence, par exemple. Le chemin de fer a déjà fait la fierté du Canada. Aujourd'hui, sur certains tronçons, les trains circulent à peine plus vite que des carrioles à chevaux. Combien de temps allons-nous tolérer cela? C'était « Nos voies ferrées sont une honte nationale », un texte de Philippe Mercure, paru le 31 juillet 2024 dans la presse.
De grâce, libérez-nous de ce fardeau. Un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 11 août 2024 dans la presse. Quelle plaie! De façon insidieuse, la gestion de notre dossier de crédit en ligne sur les sites d'Equifax et de TransUnion s'est ajoutée à la pile de tâches que nous impose la vie moderne. Pas moyen d'être tranquille, puisque nos informations personnelles sont constamment à risque d'être volées par des pirates, et elles le sont. En mai 2023, Placement Mackenzie, à qui j'ai déjà acheté un fonds commun, m'a annoncé par lettre que mes données personnelles avaient peut-être été volées par des pirates. Au moins, ils n'ont pas profité de l'occasion pour vider les comptes. C'est déjà ça de pris. En juillet 2024, Ticketmaster m'informait que sa plateforme de vente de billets avait été victime d'un incident, un mot vague qui n'augure jamais rien de bon. Une tierce partie non autorisée a accédé à certains renseignements figurant dans une base de données info-nuagique, précisait le courriel avant d'ajouter que le numéro crypté de ma carte de crédit et de sa date d'expiration était à risque. Si la tendance se maintient, je devrais recevoir une troisième alerte du genre en septembre 2024. Entre-temps, les deux entreprises m'ont offert gratuitement un service de surveillance de mon dossier de crédit. Dans le cas de Ticketmaster, je devais cliquer sur un lien m'amenant sur le site de TransUnion pour profiter de cette offre. Mais comment savoir si ce courriel était légitime? Comment m'assurer que je n'allais pas plutôt aider des malfaiteurs à accéder à mon dossier en cliquant sur le lien? Il faudrait que je les appelle pour en avoir le cœur net. Soyons réalistes, les chances d'échapper à un vol de données sont à peu près nulles. Nos renseignements se trouvent dans une multitude de nuages qui semblent aussi faciles à pénétrer que des vrais. Des cybercriminels ont même réussi à déjouer Equifax et à s'emparer des données de la moitié des Américains en 2019. C'est tout dire. Au Québec, le nombre de brèches de sécurité explose. La Commission d'accès à l'information, CAI, a reçu 444 signalements au cours de la période d'un an terminée à la fin de mars 2024, soit 1,2 par jour. Au cours de l'année précédente, la CAI en avait reçu 254. Puisque nos informations personnelles sont partout et que leur protection n'est pas parfaitement assurée, le fardeau de compenser les lacunes de sécurité tombe sur vous et moi. Mais ce n'est pas grave. Nous avons tous beaucoup de temps libre pour transmettre des avis de fraude aux agences de crédit, pour évaluer leurs divers programmes de protection contre le vol d'identité et de surveillance, pour changer nos dizaines de mots de passe tous les 45 jours, pour verrouiller et déverrouiller notre dossier, pour le consulter assidûment et le faire corriger au besoin en téléphonant à Equifax et à TransUnion. En plus, toutes ces activités sont drôlement plus intéressantes que n'importe quelle autre passion. N'est-ce pas? La clé, le verrouillage. Je plaisante, bien sûr. Toute cette gestion est aussi chronophage que désagréable. Alors, verrouillez vite vos dossiers dans les deux agences. C'est efficace et ça ne prend pas trop de temps, car du moment qu'un voyou a acheté un VUS sous votre nom et que la banque vous court après, ce qui est arrivé à deux personnes dans mon voisinage, le défi commence. Martin Lamarche, lui, a simplement découvert dans son dossier chez TransUnion que son adresse était rendue en Ontario. Après avoir été la cible de quelques fraudes, dont une tentative d'ouverture d'une carte de crédit à son nom et 12 000 $ d'achat au Mexique et dans l'Ouest canadien, il tenait à rectifier les faits. Le processus, au téléphone et par la poste, lui a pris 6 mois. Il a transmis son passeport, son permis de conduire, son relevé de carte de crédit. Dès qu'il y a un problème, dit M. Lamarche, c'est à nous de faire la preuve que nous sommes la victime. Cette responsabilité-là est très lourde. C'est une grosse charge mentale. Pour les agences de crédit, c'est comme si on était coupable. Ils ne nous font pas confiance et c'est à nous de devoir prouver des affaires. En réalité, c'est encore pire quand l'information est vraie. Dans le cas où un fraudeur a obtenu un prêt avec l'identité d'autrui, par exemple, le dossier de crédit s'en trouve entaché tant qu'il n'est pas rectifié. Dire que la technologie devait nous simplifier la vie. Avec la multiplication des vols de données et des fraudes, le gouvernement doit vite trouver un système plus juste pour les consommateurs, un système surtout qui ne repose pas uniquement sur la bonne volonté d'entreprises à but lucratif. Très critique de TransUnion et d'Equifax, l'Union des consommateurs juge qu'il faut nationaliser le dossier de crédit étant donné la quantité d'informations sensibles qu'il contient. Remarquez, le gouvernement n'a pas non plus une super réputation en matière de projets informatiques efficaces. Le système français, qui regroupe uniquement la liste des paiements en souffrance, me semble une autre avenue intéressante à envisager. Si, dans 20 ans, le système bancaire n'a pas évolué, que le gouvernement n'a pas mis ses culottes et mis en place un mécanisme, ça va être encore la même chose. Les informations qui ont fuité, elles sont encore bonnes après 20 ans. Mais en garde Éric Parent, PDG d'Eva Technologies et expert en technologie. Le concept même de la cote de crédit est problématique à bien des égards. En plus d'être calculé de manière obscure, ce nombre est utilisé à toutes les sauces par des employeurs, des propriétaires immobiliers et des compagnies d'assurance. C'est sans compter qu'il peut très mal refléter la capacité financière d'un consommateur, puisque le fait de ne pas avoir de dette est nuisible. On va jusqu'à suggérer aux jeunes d'utiliser une carte de crédit pour se bâtir un bon dossier. Ils risquent ainsi l'endettement pour se faire un nom. Absurde. Co-directeur général de l'Union des consommateurs, Maxime Doré propose l'idée que tout le monde parte dans la vie avec une cote moyenne qui s'améliorerait au pas au fil du temps en fonction de sa conduite financière. J'aime beaucoup sa proposition, qui améliorerait aussi la vie des immigrants qui arrivent ici sans dossier de crédit, ce qui leur complique l'existence. Les fraudeurs sont créatifs. Il est grand temps de l'être tout autant pour leur mettre des bâtons dans les roues et pour inventer un nouveau système qui nous protège sans même que nous ayons besoin de lever le petit doigt. C'était « De grâce, libérez-nous de ce fardeau », un texte de Marie-Ève Fournier, paru le 11 août 2024 dans La Presse.
Minou, Pitou et la planète. Un texte de Chloé Bourquin, paru le 12 juillet 2024 dans La Presse. Déjection, alimentation riche en viande, déclin des oiseaux. Nos animaux de compagnie ont des répercussions non négligeables sur l'environnement. Mais des solutions existent pour les minimiser. J'ai adopté un chien il y a peu et j'en suis ravie. Mais je culpabilise un peu par rapport à son impact sur la planète. Est-ce que je n'aurais pas mieux fait de prendre un chat? Demande Viviane, une lectrice. Plus d'un ménage sur deux au Québec possède au moins un chien ou un chat. Au total, on en compte 3,4 millions dans toute la province, selon les plus récents chiffres de l'Association des médecins vétérinaires du Québec, AMVQ, en pratique des petits animaux. Réduction de l'anxiété, moins de sédentarité, plus d'empathie et d'estime de soi. Leur effet positif sur la santé mentale et physique de leurs propriétaires a été démontré dans de nombreuses études. Mais Minette et Filou soulèvent aussi quelques enjeux environnementaux. L'enjeu de la viande. On estime qu'un chien de taille moyenne produit près d'une tonne de gaz à effet de serre, GES, par an, ce qui équivaut à un aller simple en avion entre Montréal et Paris. Pour le chat, les chiffres varient selon les études, mais il produirait de 2 à 4 fois moins de GES qu'un chien. Un coup d'œil à leur gamelle suffit pour comprendre d'où proviennent ces émissions de GES. L'alimentation compte pour environ les 2/3 de l'empreinte globale d'un chien et pour la moitié de celle d'un chat. Et ce qui pèse le plus dans la balance, c'est leur consommation de viande, qui constitue près de 50% des calories qu'ils consomment. En comparaison, le régime alimentaire d'un Canadien est composé de 20% de viande environ. L'exemple des États-Unis. Les États-Unis comptent 163 millions de chiens et de chats, soit l'équivalent de la moitié de la population américaine. Ils produisent, en masse, autant d'excréments que 30% de la population américaine. Ils mangent autant de calories animales que 33% de la population américaine. Ils produisent 64 millions de tonnes de CO2 par an, soit l'équivalent de 13,6 millions de voitures sur les routes. Si les chiens et les chats des États-Unis formaient un pays, celui-ci serait le 5e consommateur de viande au monde, résume Véronique Armstrong, doctorante en éthique environnementale à l'Université de Montréal, une estimation basée sur les données d'une étude parue dans la revue PLOS One en 2017. Mettre son animal au vert? L'impact varie cependant selon ce qu'on donne à manger à son animal. Si un chien est nourri avec des restes de table, son empreinte chute de façon draconienne. À l'inverse, si on lui donne exclusivement de la viande crue, des pièces nobles qui auraient pu être mangées par l'humain, il verra son empreinte multipliée par deux. Quant à la nourriture pour animaux cuisinée maison, tout dépend des ingrédients utilisés. Pour ce qui est de la nourriture industrielle, les conserves et les croquettes premium contiennent plus de viande, donc ont une plus grande incidence que la nourriture sèche classique. La Fondation David Suzuki mentionne la possibilité de se tourner vers des croquettes à base de protéines d'insectes ou même 100% végétales, un régime végétalien n'étant cependant pas recommandé pour un chat qui reste un carnivore. Finalement, c'est comme pour l'être humain, résume Elliot Muller, chercheur au Centre international de référence sur l'analyse du cycle de vie et la transition durable, CIRAIG. L'idéal, dit-il, est de privilégier le plus possible les protéines végétales et, si ce n'est pas possible, diminuer le plus possible la viande rouge. Mais peu importe votre choix, consultez votre vétérinaire. Il vous dira si telle ou telle diète est appropriée ou non en fonction de votre animal, souligne Michel Pépin, porte-parole de l'AMVQ. Vous écoutez Minou, Pitou et la planète. Un texte de Chloé Bourquin, paru le 12 juillet 2024 dans La Presse. La question de la biodiversité. Les animaux de compagnie ont également des conséquences sur les écosystèmes. Du côté du chien, on estime qu'il produit en moyenne sur toute sa vie une tonne d'excréments et 2000 litres d'urine. Ces déjections contiennent de l'azote et du phosphore qui fertilisent les sols. À l'échelle d'une ville, cela peut accélérer considérablement l'eutrophisation des cours d'eau avoisinants. L'excès de nutriments dans l'eau peut entraîner une prolifération des végétaux, un appauvrissement en oxygène et un déséquilibre de l'écosystème. Pour ce qui est du chat, celui-ci est considéré comme une espèce exotique envahissante. Beaucoup de chats sont abandonnés dans la rue et se reproduisent à une vitesse phénoménale, ce qui a des conséquences sur la biodiversité, explique Véronique Armstrong. Les chats domestiques tuent chaque année de 100 à 350 millions d'oiseaux au Canada, ce qui fait d'eux la première cause anthropique de mortalité chez les oiseaux. On estime qu'ils ont contribué à l'extinction récente de 40 espèces d'oiseaux dans le monde et en mettent encore en danger des centaines d'autres. Là encore, des solutions existent. On peut choisir de garder son chat à l'intérieur, par exemple. S'il a des jeux, des structures qu'il peut escalader, des interactions, il va être heureux, soutient Michel Pépin. Mais tout dépend de chaque animal. Et de nouveau, il est préférable d'en parler avec son vétérinaire avant tout changement d'habitude. Finalement, en moyenne, un chien a une plus grande empreinte sur l'environnement, mais un chat laissé à l'extérieur aura plus de conséquences sur la biodiversité. Faut-il pour autant renoncer à adopter l'un ou l'autre et se rabattre sur un lapin? Pour Michel Pépin, la réponse est claire. On ne devrait pas choisir un animal juste en fonction de son empreinte environnementale. Et c'est surtout son impact sur la cellule familiale qui est important, ajoute-t-il. Il faut se demander ce qu'on recherche auprès d'un animal et ce qu'on est prêt à donner pour lui, pour le rendre heureux et qu'il ait une belle vie. D'autres idées pour réduire l'empreinte environnementale de son animal. Préférer l'adoption dans un refuge, si possible. Faire stériliser son animal. Privilégier les jouets fabriqués à partir de matériaux naturels ou de seconde main. Éviter la voiture pour sortir promener son chien. Éviter de laisser son chien en liberté en forêt. ramasser les déjections de son chien en privilégiant les sacs compostables plutôt qu'en plastique. Privilégier une litière en matériaux compostables pour son chat, copeaux de bois, coques de noix, paillis, etc. Certaines municipalités acceptent que les litières et les déjections des chats et des chiens aillent dans le bac brun, comme à Sherbrooke ou à Trois-Rivières, mais pas à Montréal. Il est généralement déconseillé de mettre le contenu de la litière, même biodégradable, dans les toilettes. Pour plus d'informations, vous pouvez vous renseigner auprès de votre municipalité. Autres nouvelles environnementales, le chiffre de la semaine, 163,5 millions. Québec et le gouvernement fédéral ont annoncé le 27 juin dernier un financement de 163,5 millions pour soutenir le projet de tramway qui devrait relier l'ouest de Gatineau au centre-ville de Gatineau et d'Ottawa. Il faudra cependant attendre une dizaine d'années avant sa mise en service. Feu vert des toits immaculés. Une étude publiée début juillet 2024 dans Geophysical Research Letters le confirme. Peindre les toits des bâtiments en blanc pourrait réduire les îlots de chaleur dans les villes. Si cette mesure était généralisée dans une grande métropole comme Londres, cela permettrait de faire diminuer la température de 1,2 degrés Celsius en moyenne en période de canicule, voire de 2 degrés Celsius à certains endroits. C'est dû à l'effet albédo. Plus une surface est claire, plus elle renvoie la lumière et donc la chaleur. Un toit en thermoplastique blanc, par exemple, peut réfléchir 80 % des rayons du soleil. Elle a dit « Cette technologie pourrait transformer complètement nos méthodes de surveillance et de gestion de la pollution plastique. » Parisa Ariya, professeure à l'Université McGill, dont l'équipe de recherche a mis au point le premier outil capable de détecter des nanoplastiques présents dans l'eau, in situ et en temps réel. C'était Minou, Pitou et la planète. Un texte de Chloé Bourquin, paru le 12 juillet 2024 dans La Presse.